Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 12h et 13h avec Maurice Sefti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui ?
À la rencontre d'un homme, l'homme de maïs, qui vit au Guatemala.
L'homme de maïs, c'est quoi ? C'est une légende ?
L'homme de maïs n'est pas une légende, Frédéric, parce que je dirais qu'il est présent partout. Si vous êtes sur la place de Hameau, si vous avez simplement une masure, quelques petites chaumières, une simple hutte, eh bien, vous le voyez déboucher carrément à l'improviste. Il sort d'un sentier qui paraît toujours invisible. L'homme de maïs, l'Indien du Guatemala, je vous dirais qu'il est vêtu de blanc. Il a simplement une petite lanière sur les orteils qui retiennent un bout de vieux morceau de pneumatique. C'est naturellement sa sandale, sa semelle. Et le mécapatl ou le mécapal, eh bien, il est glissé sous un chapeau de paille un peu passé, comme cela. Et il porte une machette à la main. Et il disparaît presque toujours sous une gerbe incroyable d'épis, des épis feuillus, qu'il a ramené de son champ, une gerbe énorme qui bouge avec des mouvements. On a l'impression d'une sorte de lassitude, comme ça, quelque chose de très, très mou, très, très lent, comme un animal qui avance. Et on voit qu'il est même. Il y a un côté oppressé, comme ça, une sorte de fardeau qui avance. On a l'impression de voir une image un peu symbolique. Et quand on parle du Guatemala, bon, on pense d'abord à une sorte de sortilège qui a toujours touché ce pays. On imagine. Au départ, des choses qui sont très proches de la réalité. Je veux dire, par là, vous avez des mots qui vous sortent comme ça du cerveau. Il y a la beauté, il y a la sérénité, il y a surtout les couleurs. Une sorte de chatoiement qui est assez incroyable. Vous vous rappelez, on a déjà décrit cet incroyable miroir indigo du lac Atitlan. On a déjà un peu évoqué ce côté vert et un peu monotone des grandes jungles du Petén. Et quand on parle de délicatesse, eh bien, il y a des couleurs qui reviennent tout de suite à la mémoire, un peu comme des saveurs. Il y a le bleu mauve, par exemple le jacaranda, qui est vraiment un arbre assez extraordinaire. Et puis il y a ce côté pourpre un peu assourdi, comme ça, lorsqu'on évoque l'hibiscus qu'on voit un peu partout. C'est même si on parle de soleil, puisqu'on est sous le soleil, un simple mur, par exemple, un mur blanc.
On parle du soleil, mais on est où, finalement?
On est au Guatemala, n'importe où, dans n'importe quel sentier, dans n'importe quel village. Mmh. Et je vous dirais que ce côté, cette luminescence, je penserais même à celle qui est encore plus particulière, celle de la lune, par exemple. Un éclairage lunaire dans un paysage guatémaltèque, immédiatement, vous avez des images chinoises ou japonaises. On a l'impression qu'on a inventé cela artistiquement parlant. Et il y a autre chose qui me touche. Là, je vous donne que des impressions générales pour placer le personnage, pour placer cet homme de maïs. Il y a surtout au Guatemala quelque chose qui m'a toujours touché, c'est la profondeur du silence. Il y a des lieux comme ça où tout à coup, on est même un peu pris de vertige. C'est un pays qui est comme un peu suspendu. Là, je vous donne un côté un peu poétique de ce Guatemala. Mais cet homme qu'on vient de voir passer tout à l'heure sous son maïs, eh bien, son visage, vous l'avez juste aperçu entre deux branchages. Et il a un profil qui vous a touché tout de suite. Il y a d'abord la couleur de sa peau et puis cette allure extrêmement curieuse que vous avez déjà vue quelque part. Vous l'avez vu sur les stèles, sur ces fabuleux guerriers qui sont gravés là sur les vieilles stèles de l'époque classique. Et là, vous avez pu l'apercevoir à Tikal, vous avez pu l'apercevoir dans certains sites. C'est toujours le même homme. Et c'est cette espèce de constance qui est assez curieuse parce que vous allez le croiser exactement identique sur une place de marché. On l'a déjà fait. Vous allez pouvoir le croiser avec ses côtés extrêmement timides, intériorisés, les yeux baissés, lorsqu'il essaye de communiquer ou d'acheter quelque chose dans une simple échoppe face à un ladino, c'est-à-dire un étranger pour lui. Vous l'avez vu assis ou au contraire en train de prier sur les marches d'une église. Et c'est quand même assez impressionnant d'avoir cette espèce de stéréotype Là, je parle du visage. Il y a vraiment une luminosité très curieuse. On a l'impression que ces gens-là pensent effectivement de l'intérieur, mais qu'il y a une étrange timidité. Et partout dans ce pays où on se sent à l'aise, notre peau, c'est vraiment l'éternel printemps, comme ça, une impression assez curieuse. Je parlais de la couleur, elle s'impose partout. Elle a quelque chose... On pourrait dire comme ça que la lumière et la couleur, ce soleil qui permet de voir ce spectre, a quelque chose de souverain. C'est comme si l'air et ce qui était touché par cette lumière était tout à coup transfiguré. Moi, je suis toujours très, très, très impressionné par exemple, l'éclat des fleurs. Je ne me rappelle pas d'un autre pays où les fleurs ont une telle puissance dans leur couleur. La même chose, vous passez sans le vouloir tout à coup sur la broderie, hein, sur ces vêtements indigènes. On a le même éclat, on a la même puissance. Vous pourriez tout à coup tourner votre regard sur un paysage. Vous avez ces replis avec des couleurs ocre comme ça, ces volcans qui descendent doucement selon la saison avec les champs qui sont déjà un peu secs. Et en même temps, il y a partout une forme un peu explosive comme ça. Ça vous paraît curieux que je vous parle comme ça de façon tout à fait imagée, mais c'est un peu comme si je posais mon chevalet partout lorsqu'on croise ces Indiens qui sont majoritaires au Guatemala, qui représentent plus de 60% de la population. Eh bien, on a l'impression que ce sont des idoles. Vous voyez, un peu comme Gauguin aurait pu les voir et comme il les imaginait. Mais si je parle de Gauguin, voilà une bonne image. Hein. C'est-à-dire que tout à coup, vous avez vous-même envie de transformer cette réalité comme on pourrait le faire avec le pinceau de Gauguin. C'est-à-dire toutes ces couleurs éclatantes qu'il a mises ensemble, eh bien, c'est tout ce que vous avez reçu dans la rétine au cours d'une simple journée. C'est assez troublant. Et vous avez par exemple, immédiatement vous changez de température, vous pénétrez dans un patio par exemple. Il y a cette fraîcheur un peu étrange, il fait pourtant très chaud, vous avez aussi l'impression d'être partout. Là, immédiatement, j'entends les cigales. Il n'y en a pas forcément, il y en a dans la jungle, mais c'est ce côté bourgade de province, vous savez. Si je dis cigales, c'est parce qu'on sent ça, par exemple, chez nous en Provence. Dès qu'on est dans un climat et avec une lumière extraordinaire, là je repense aux peintres, bien sûr.
Bon, mais là, il faut faire des kilomètres et des kilomètres, hein, si on veut se retrouver en Provence, tandis que là, apparemment, pas.
Non,
là en marchant...
Tout le Guatemala est comme ça, je crois que c'est ça qui est impressionnant. Et il y a aussi une notion qui involontairement se trouve derrière ce que je suis en train de raconter, c'est la transparence. Or, ça fait partie de l'air, bien sûr, ça fait partie du climat, mais je dirais qu'on a l'impression d'être à la fois du verre et de l'eau. Hein. Donc la matière vitreuse est quelque chose d'aquatique. Et puis il y a surtout, alors juste derrière... l'impression que rien n'existe. Et qu'en même temps, tout était un peu bloqué, c'est-à-dire comme si le temps s'était arrêté quelque part, mais pas aujourd'hui, pas au présent, très loin dans le passé. Et ça, on a l'impression qu'on le traîne avec soi. Chaque chose qu'on regarde, c'est cette impression d'être bloqué. On est bloqué à jamais, et finalement, on a une sensation de non-être. Et on apprend, au contact de cette magie guatémaltèque, cette étrange patience qu'il faut désarmer, cette méfiance qu'il faut savoir casser, apprendre à se mouvoir dans un univers familier. C'est ça, être l'homme de maïs qui est là, toujours, partout, il est présent.
Thank you.
Maurice, dites-moi, qui est cet homme du maïs? On a vu ce que lui pouvait voir, tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il sent, mais lui, qui il est? Qui est-il?
Ah, il est d'abord l'homme de maïs, c'est-à-dire qu'en fait, il est partie intégrante de cette plante. Un peu comme Sting évoquait un morceau d'Amérique latine et des réalités, on est troublé de voir que tout ce qui se passe dans la tête d'un Indien lui rappelle justement ce blocage dans le temps, cette espèce d'harmonie avec son passé qui en même temps a quelque chose d'absolument tragique. Or le maïs, c'est une plante sacrée, c'est la plante sacrée par excellence. Et le maïs,
pourquoi est-elle sacrée?
Parce qu'il joue un rôle primordial dans la vie quotidienne et dans l'alimentation, bien sûr, de l'autochtone du Guatemala. Et je vous dirais même que depuis sa plus tendre enfance, vraiment depuis l'instant où il n'a plus de lait de sa mère, eh bien, l'Indien se sent lié totalement à cette céréale qui est vitale. Dans le Popol Vuh, qui est le livre sacré des Mayas Quiché, qui nous a appris toute la mythologie de ces Mayas et qui est un livre qui maintenant est tellement révélateur qu'on le retrouve partout, tous les mythes du Popol Vuh se retrouve dans les anciens monuments, se retrouve dans la tête des Indiens d'aujourd'hui encore. Eh bien, on affirme dans cet ouvrage que le maïs a servi de matière première à la création de l'homme. La pâte même du maïs a fait la chair de l'homme. Donc on est totalement dépendant, et puis il y a ces grands formateurs dans sa tête, il imagine encore ce pétrissage de départ, comme nous on ferait l'homme de glaise et comme ils l'ont fait avant l'homme de bois et avant l'homme de maïs qui est la perfection. Il a fallu mélanger ce maïs jaune, ce maïs blanc pour obtenir la chair de l'homme. Et quand on parle des semailles, quand on parle de mots aussi simples que la récolte du maïs ou cet homme qui passait tout à l'heure dans la rue sous son fardeau, eh bien, c'est justement tout cela est assimilé, est en même temps parallèle à des cérémonies extrêmement particulières. Et là, je parle bien des Indiens, dans la mesure où personne n'oserait négliger ces cérémonies lorsqu'on a, la pensée indienne. Les dieux pourraient se venger, et ça, ce serait très grave. Et en l'occurrence, si on note certaines variantes dans les cultes qui sont rendus au maïs, là, dans tout le Guatemala indien, eh bien, on retrouve systématiquement la déesse mère, le dieu du monde, des mots qui sont très, très beaux, comme ça, très harmonieux, très, très poétiques. Et si j'ai donné toutes ces images tout à l'heure, c'est un peu pour nous mettre dans l'ambiance, dans le cerveau et dans la vision de l'Indien. Mm-hmm. Et je vous dirais même que l'homme de connaissance, comme on l'appelle, ou alors à défaut le simple maître du champ, mais là je parle du champ à cultiver bien sûr, il va faire un office dans lequel participeront plusieurs personnes de la famille.
C'est-à-dire tous les jours ?
Non, lorsqu'il y a justement semences, récoltes, etc. Et là, obligatoirement, on va se retrouver avec du copal, c'est-à-dire l'encens, il y aura des cierges, et puis il y aura des prières, des incantations. Tout ça, c'est récité avec une ferveur, simplement pour se concilier les bonnes grâces des dieux et surtout de tous les esprits qui sont présents, parce que c'est ça, il ne faut jamais oublier, je reparlerai presque de Sting qui lui a très bien compris ce monde indien et souvent nous emmène un peu dans l'au-delà comme ça, et bien l'Indien vit dans les deux mondes sans aucun problème, et pratiquement toutes les légendes qui existent, enfin qui sont vraiment du coin, enfin vernaculaires comme on les appelle, et bien ces légendes attribuent au maïs des origines sacrées, les premiers grains sont généralement aperçus par hasard alors que la nourriture se faisait rare, c'est-à-dire un moment où il y a disette dans l'idée de légende. Et à partir de là, eh bien, souvent le premier épi est très très bien caché. Et l'homme a besoin de l'aide d'un animal, par exemple un simple animal familier ou un animal sauvage, pour le découvrir. Et puis il va s'en emparer, il va le faire fructifier, ce qui est la réalité historique, puisqu'en fait le maïs ne peut pas se reproduire tout seul. Il faut l'intervention de quelqu'un, hein, et de l'homme en l'occurrence. Et à part cela, eh bien, on va naturellement apporter des offrandes à l'esprit du lieu où on l'a trouvé. Parce que ce maïs, il est caché, il est dans les profondeurs, il peut être dans une grotte, il peut être au sein même d'une montagne ou le long d'une rivière. C'est-à-dire que chaque indigène, chaque tribu, chaque endroit du Guatemala a inventé son mythe de départ. Et ils sont presque tous identiques dans leur fonction, puisque tout à coup, ils ont été gratifiés de cette incroyable richesse qui va les transformer de simples nomades en sédentaires qui vont vivre. Il ne faut pas oublier qu'un Indien, 80% de sa nourriture, c'est du maïs, sous toutes ses formes. Et puis en l'occurrence, quand on a reçu une richesse pareille, eh bien on doit suivre scrupuleusement la tradition. Mmh. Et en l'occurrence, il faut absolument être envers et contre tout. Et aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est qu'on peut très bien se moquer complètement de ces rites, et les ladinos, enfin les étrangers, les blancs, les créoles le font volontiers, mais en l'occurrence, les indiens continuent à le faire en cachette. C'est-à-dire souvent, ce sont des rituels qui se font de nuit. J'ai suivi des cérémonies qui peuvent durer des heures. Parce qu'ils ont un peu honte. Ils sont dans un pays où les choses changent, l'éducation. Même vous, ça vous paraît complètement étrange qu'on continue à faire des choses pareilles pour un grain de maïs. Et en l'occurrence, il y a quand même le sourire un peu mépris. Des propriétaires fonciers qui vivent là, et puis il y a les intendants, enfin, l'Indien n'est que le dernier de la chaîne, et jamais il va oublier de rendre grâce à la terre, à ses bontés, à ses largesses, quand même il bénéficie chichement en tout cas des fruits de son labeur, et il ne travaille pas toujours en principe sur ses propres terres, nous allons le voir, souvent il doit aller à l'extérieur.
Battles are lost, but you never
Vous parliez tout à l'heure de l'Indien qui doit travailler sur son petit lopin de terre, mais l'Indien doit aussi être saisonnier, doit aller travailler ailleurs.
Ah oui, parce que le Guatemala est un pays non seulement qui n'est pas réservé à l'Indien, mais auquel on a laissé uniquement les terres les plus ingrates. C'est vraiment l'ocre que j'évoquais tout à l'heure sur le flanc des volcans et au sommet même de la Sierra Madre ou de ces volcans qui nous amènent petit à petit vers les Chiapas mexicains. Alors si le soleil brille dans sa communauté en altitude, il faut savoir qu'ils sont plusieurs centaines de milliers au Guatemala, des paysans indiens qui doivent descendre chaque année des montagnes pour la récolte, par exemple, du café qui n'a rien à voir avec leur culture, du coton qui effectivement était
donc
déjà utilisé.
Donc c'est le fond pour de riches.
Pour les planteurs qui se trouvent en bas, qui s'occupent de canne à sucre et qui sont justement sur la côte pacifique, qui n'est pas très large, mais qui est d'une richesse incroyable. Et moi, je me rappelle bien, j'en ai rencontré très souvent, mais je connais quelqu'un, par exemple, qui vient de Todos Santos. Todos Santos, c'est vraiment le village absolument perdu. C'est-à-dire qu'on mettait une demi-journée pour aller jusqu'au hameau suivant et puis se retrouver ensuite à Huehuetenango en ville. La route n'existe que depuis quelques années. Et c'était vraiment la vallée creuse comme ça en pleine montagne et les hommes, celui que j'ai connu avait quelque chose comme 35 ans, il était marié, il avait 3 enfants, il habitait dans ce village où il était né bien sûr, dans une simple petite maison d'adobe et il a sa milpa, c'est-à-dire son petit champ, je dirais presque son jardin de maïs, la milpa c'est uniquement pour le maïs et là on cultive en même temps les haricots, quelques légumes dans le même champ, toujours autour du maïs on peut mettre d'autres choses. Et il n'a pas suffisamment pour vivre obligatoirement. Alors pendant 2 mois, il va travailler dans les plantations de coton. Et il y a des hommes qui venaient les chercher avec un camion. Et puis ensuite, ils descendaient debout. Ils sont serrés les uns contre les autres. Parfois, le propriétaire vient avec une petite avionnette pour inspecter ses propres terres. En principe, le propriétaire n'y habite pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils vivent plutôt à Antigua ou à Guatemala. Et puis les petits paysans qui viennent comme cela pour travailler quelques semaines, eh bien, ils couchent à même le sol. C'est vraiment du bétail. J'ose être assez dur là, pour montrer cette double réalité.
Donc ils sont loin de chez eux.
Ils sont dans des baraquements sans la moindre commodité. Et des fois, ils n'ont même pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste un toit. Vous me direz qu'il fait un peu plus chaud dans ce climat-là. Et la nourriture, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on leur donne à peine des haricots. Ils n'ont même pas de café et pourtant ils le cultivent. Ils s'en occupent. Ils n'ont rien d'autre pour travailler. En principe, carrément du lever au coucher du soleil. Voilà ce que c'est qu'un soleil d'un jour lorsqu'on le voit dans cette forme migratoire. Alors la réalité, c'est qu'on peut être facilement malade quand on passe d'un climat où on vit à 3000 mètres d'altitude et on se retrouve à zéro. Vous imaginez la différence. On n'est pas bien payé en plus. Et puis, ils gagnent quelques quetzals par jour. Ça leur permet de survivre et de ramener un tout petit quelque chose. Et je me rappelle, cet homme m'avait parlé qu'une saison, il avait réussi à changer de plantation. Et il était tombé chez un gringo, c'est-à-dire quelqu'un qui était d'une autre culture que le créole ou l'allemand local qui est là depuis un siècle. Et là, il était pratiquement doublement payé. Ça ne lui est arrivé qu'une seule fois, donc c'était vraiment une exception. Et ce qui est encore impressionnant, c'est d'imaginer ce qui est dans sa tête. C'est-à-dire que l'espagnol, par exemple, qu'il va utiliser, qu'il va parler dans les plantations, il l'a en principe appris à la caserne, parce qu'ils font partie vraiment de ces hommes qu'on recrute obligatoirement et qui font le gros de l'armée. Et il a été appris de force, finalement. Ce n'est pas une langue du tout qui leur est propre. Et puis à Todos Santos, il y avait bien une école, mais les instituteurs ne parlaient pas le MAM. Le MAM, c'est la langue de ce petit village de Todos Santos. Et il y a un petit centre de santé, il y a de temps en temps un médecin, il y a des gens qui viennent depuis l'université et qui sont envoyés pendant une année. Il y a bien sûr les guérisseurs au village. Dans tous les villages, il y en a, mais les sorciers ne sont pas autorisés à accomplir le rituel comme ils le voudraient, parce que depuis qu'il y a un curé qui s'est installé sur place, obligatoirement le péché est là aussi, et ça existe depuis quelques années, et les traditions se perdent avec ce côté castillan. Et la castillisation, cette façon d'apprendre l'espagnol, transforme obligatoirement l'indigène aussi. Alors ce qu'il pouvait dire aussi, c'est qu'il préférait bien sûr vivre au village, et c'est beaucoup plus tranquille, même s'il n'y a pas assez de ressources. Lui il m'avait mentionné, il avait quelques poules, il avait deux cochons. La viande, attention, on en mange une fois par mois au maximum, c'est ça, vous vous rendez mieux compte de la diète et de la réalité. Et en l'occurrence, s'il y a de la viande, c'est d'abord pour les ladinos, c'est-à-dire les étrangers, ceux qui ne sont pas indiens. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on mange de temps en temps des œufs, puisqu'on a des poules.
Seul l'Indien travaille, donc le ladino ne travaille pas.
De quel ladino parlons-nous ? Là, on parlait du propriétaire. Je fais simplement la différence entre sa réalité dans son village et puis celle qu'il a subie pendant quelques mois. Et ils se rendent bien compte aussi que par exemple, ils n'ont pas d'armes pour aller chasser. C'est beaucoup trop cher. Et puis, il y a pourtant quelques bêtes sauvages, mais les ladinos, eux, peuvent y aller. C'est-à-dire que lui faisait toujours des comparaisons comme ça, en disant, sur la côte, je descends seul parce que le climat est beaucoup trop difficile, il est beaucoup trop rude. Je dis rude dans le sens de la chaleur, bien sûr, parce que pour les enfants, c'est pratiquement impossible de supporter cette chaleur simplement pour dormir. Et mais au village, il parle aussi, par exemple, il m'avait mentionné son église, qui était parallèle à l'église catholique. Il y avait une église au Mont Sinaï. Et là, ils savaient qu'on pouvait les aider, hein, on leur donnait parfois du maïs et des haricots. Là, on parle de l'entraide et de ce qu'il faut faire pour que ces Indiens puissent survivre. Mais je vous reparlerai peut-être un peu des ladinos, cette réalité.
Cet Indien dont vous nous parlez depuis quelques minutes, cet Indien que vous connaissez donc personnellement, est-ce qu'il a eu l'occasion de travailler pour une grosse compagnie, à part le gringo dont vous parliez tout à l'heure ?
Alors oui, dans sa famille, bien sûr, bien que Todos Santos soit tout à fait proche de la frontière mexicaine, c'est-à-dire à l'ouest du pays, je dirais que le Guatemala est surtout connu pour une immense propriété foncière qui s'est créée de façon un peu curieuse. C'est le stéréotype de la fameuse république bananière. Je veux dire par là que là je suis obligé de parler un tout petit peu de l'histoire relativement contemporaine. Je parlais de ce blocage dans le temps, mais c'est vrai que en l'occurrence en 1954, je crois, au moment où Arbenz, qui était d'origine suisse d'ailleurs, a chuté et a été carrément carrément évincé par les troupes américaines, par les fameux, comment ça s'appelle, ces Marines qui avaient débarqué au Guatemala. Eh bien, bon, ils avaient été mis en accusation lors de la crise qui va en fait précipiter la chute de ce régime Arbenz. Et c'est la fameuse United Fruit Company. Alors, c'est un mot qui sonne immédiatement à l'oreille indienne.
Mais... Société américaine, non ?
Alors, c'est une société américaine. Essayez d'imaginer qu'elle s'est constituée il y a pratiquement un siècle, en 1899, juste avant la fin du siècle. Et c'était tout simplement non seulement américain, ça s'est fait dans le New Jersey. Et c'était un certain Minor Case qui avait été le fondateur et qui s'était lancé dans la production de bananes. Et quand je dis production, c'est vraiment l'industrie. Hein. Dès la fin du 19e siècle, il avait lancé ça au Costa Rica. Vous voyez où ça se trouve, un peu plus bas que le Guatemala. Et avant de partir petit à petit à la conquête des autres pays de la région où bien sûr on pouvait planter éventuellement ces arbres pour avoir des bananes. Alors deux ans plus tard, la United Fruit Company va prendre pied au Guatemala et en quelques années elle va absorber une bonne douzaine de compagnies fruitières au sud de tout ce qui est...
Donc grosse concurrence quand même.
Ah non mais énorme, tout ce qui est en dessous du Rio Grande va y passer et elle devient l'une des plus puissantes sociétés américaines. Elle joue un rôle absolument déterminant.
C'est-à-dire que toutes ces petites entreprises vont se rallier à...
Oh, elles vont être achetées, carrément. Ah, ouais. Oui, vont carrément être achetées. C'est un concept, vraiment, que je parlais de république bananière, c'est que tout à coup, quand je dis république, c'est le pouvoir, et bananière, c'est qu'il n'y a que ça derrière. Et en l'occurrence, en 1930, entre 1930 et 36, comme ça, des années très très fortes, eh bien, ce trust va même signer avec le Guatemala des contrats tout à fait particuliers, et je dirais particulièrement avantageux. En l'occurrence, ça a été d'ailleurs signé dans un bureau d'avocat à New York. Vous connaissez peut-être un de ses membres, qui est justement John Foster Dulles, un homme très très célèbre dans la politique américaine. Et là, carrément, dans les années 50, eh bien, cette United Fruit Company va dominer vraiment le marché mondial de la banane. Alors, ce qui est impressionnant, c'est l'empire qui est aussi vaste que varié qu'ils vont pouvoir constituer comme ça en quelques années. En 53, par exemple, ils avaient un capital de pratiquement 600 millions de dollars, ce qui était vraiment énorme pour l'époque. Et ils possédaient, alors là, tenez-vous, ils avaient pratiquement à disposition dans le monde 250 000 hectares de terre. Hein. Donc, quand je dis république, c'est vraiment la propriété foncière. Et en l'occurrence, c'était des terres cultivées, bien sûr. Et ils avaient même une sorte, on appelait ça la flotte blanche. Ils possédaient quelque chose comme 40 navires de grand tonnage. Et dans les pays où cette compagnie s'était implantée, eh bien, ils contrôlaient les ports, les routes, les lignes de chemin de fer, bien sûr. Et on disposait d'un réseau de services incroyable. Il y avait les téléphones qui appartenaient entièrement à la compagnie. Il y avait les télégraphes, les journaux, les commerces, toutes sortes de fabriques. Là, vous commencez à sentir cette puissance qui s'abat sur un pays qui, au départ, est indigène. Alors, au Guatemala, il y a eu des investissements. Je sais pas, quand on parle des investissements étrangers, c'était plus de 60% de tous les investissements qu'on pouvait avoir rêvé faire au Guatemala. Et ils se sont sentis naturellement lésés par cette réforme d'Arbenz. Arbenz avait une tonalité assez curieuse pour les années 50. Il était véritablement révolutionnaire. Et il avait voulu, tout simplement, ce qu'on a fait à d'autres époques, même plus tard, là, je pense à Cuba, etc., nationaliser ces grandes plantations. Et le lobby bananier s'est activé, je dirais qu'il s'est activé derrière le pouvoir de Washington ou avec le pouvoir de Washington pour hâter l'intervention. Et c'est vrai qu'il y a eu une véritable intervention militaire, mais ça s'est fait comme au Chili en 1973. Et à partir des années 60, eh bien, je vous dirais que la United Fruit va petit à petit décliner au Guatemala pour des raisons d'abord de production et maintenant elle a changé de nom, elle s'appelle la United Brand, elle décline petit à petit et les plantations sont de moins en moins rentables finalement et je dirais que ça représente aujourd'hui à peu près 5% de l'ensemble des exportations du Guatemala. Mais mon indigène de Todos Santos se rappelle très très bien que lorsqu'il fallait travailler pendant la saison, vous savez comment se cultive la banane, c'est-à-dire qu'en fait en fin de parcours, en fin de saison, on doit emballer ces immenses régimes superbes, encore tout verts, avec un sac de plastique qui est juste un peu percé, comme cela, on les emballe carrément, on les emballe sur pied. Hein. Le bananier n'est pas très haut, il est à hauteur d'homme, et puis vous avez naturellement toutes sortes de moyens d'irrigation qui sont créés. Vous avez de véritables réseaux d'eau comme ça qui passent dans les bananeraies et elles sont là à l'infini. C'est superbe comme impression. Hein. Vous avez une sorte de chape comme ça verte, souple, très douce sous le soleil. Et puis lorsque vous pénétrez comme ça dans la pénombre, eh bien, vous voyez ces régimes énormes qui tous sont petit à petit emballés et on utilise même des produits pour qu'il n'y ait pas de petites bestioles à l'intérieur. En fait, de temps en temps, on trouve une tarentule. calcule, mais enfin, en l'occurrence, c'est surtout pour que la conservation soit parfaite. Et puis ensuite, on met ça en frigorifique aujourd'hui, et c'est expédié par bateau, et ça mûrit en principe à l'intérieur même d'un de ces navires de la flotte blanche de l'époque.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do.
Alors ce passé qui traîne dans la tête de l'Indien, Frédéric, eh bien, il a une origine, en fin de compte. Il y a une cassure, bien sûr, au moment de la conquête. Mais il y a un homme qui me paraît déterminant pour comprendre un peu les... Je dirais même deux hommes. On pourrait conclure avec ces deux visages. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est surtout Bartolomé de las Casas. Il va devenir l'apôtre des Indiens. Alors c'est quelqu'un qui est né à Séville. C'est un Dominicain qui n'est pas comme les autres. Et à partir de 1502, il va débarquer sur les côtes d'Amérique. Et là, il va regarder. Il va étudier. Il va suivre, je dirais, horrifié les pas. Ça avance vraiment, hein, de ces conquérants, de ces... de ces hommes qui vont tout dévaster, qui vont tout transformer. Alors, ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'il rentre en Espagne, il raconte exactement ce qu'il a vu, et à la demande d'ailleurs de la cour, des gens de la cour, eh bien, il va vraiment mettre par écrit quelques souvenirs, et puis petit à petit, ça va devenir un véritable révolutionnaire, dans la mesure où il reprend les détails dans une histoire des Indes. Il l'appelait d'ailleurs histoire apologétique, des Indes. Là, je reprends mes notes, mais il va consigner avec une minutie qui est incroyable, les massacres, les exactions. Il va parler des victimes que sont ces Indiens. Et il va écrire un ouvrage qui est absolument incroyable à lire, qui s'appelle « Les très brèves relations de la destruction des Indes ». Et là, il est un défenseur absolument acharné de tous ces autochtones. Et il va refuser absolument de voir... des hommes qui seraient des serfs, en fait, des esclaves par nature. Mm-hmm. Et ça, c'est déjà complètement nouveau pour
les Indiens. Se sont pas rebellés ?
Au départ, oui, il y a des réactions, mais en fin de compte, quand la botte est si forte, il est difficile de réagir. Mm-hmm. Et je dirais qu'il s'est élevé avec une certaine passion contre cette barbarie, et surtout les méthodes, puisque c'est ça le problème, les méthodes qui ont été employées par les Espagnols. Et vous voyez que l'histoire ne s'arrête plus à partir de là, parce qu'il va essayer de lutter contre ce qu'on appelait l'encomienda, qui est cette façon d'avoir parqué l'indigène, qui n'a rien pu faire. On l'a obligé à vivre dans un village. Le village de Todos Santos, où vit notre indigène, a été créé de toutes pièces par les premiers Espagnols pour pouvoir les parquer, tout simplement, et en faire une main-d'œuvre constante. Alors, bien sûr que quand il écrit, par exemple, que pour détruire ce monde des Indes, massacré, tué, dévasté, il fallait qu'il y ait le diable, enfin, pour lui, il avait vraiment l'impression qu'il y avait une sorte d'invention comme ça, diabolique, que l'Espagnol avait mis en place, et il avait l'impression aussi qu'on était en train de dépeupler complètement le monde, ce qui s'est véritablement réalisé, en tout cas dans les deux premiers siècles, et ces Indiens qui étaient faibles étaient incapables de se défendre, et ils subissaient véritablement des vols, des injustices, on leur prenait tout ce qui leur appartenait, et en une quarantaine, une cinquantaine d'années, eh bien, il a vu défiler devant lui quelque chose comme 15 millions d'âmes qui disparaissent, il le dit comme ça, c'est quelque chose de tragique, et en l'occurrence, il se rend bien compte qu'au nom de la religion, des sacrements, on avait tout à coup supprimé des milles et des milles de terres qui étaient petit à petit dépeuplées. Alors, ça c'est la vision de quelqu'un qui est là pour la défense de l'indigène. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a des hommes qui ont subi... La conquête au départ, et qui petit à petit se sont insérés dans ce système. Et là, je pense à quelqu'un qui était tout jeune et qui est un peu le pendant de Bartolomé de las Casas. Lui s'appelle Bernal Díaz del Castillo, on en a peut-être déjà parlé. Vous savez que c'était le secrétaire de Cortés, en fait. C'est un homme qui était un soldat, bien sûr. Il était chroniqueur en même temps. Et il a débarqué au Mexique. Donc, il a suivi toute la trajectoire du premier grand conquérant. Et il a laissé des relations sur ses... Bon, c'est véritablement une sorte de pérégrination. Comme cela, il va avancer dans cette conquête de la Nouvelle-Espagne. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait que pour servir Dieu et sa majesté, pour apporter la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres, et ça c'était son rôle, et puis il finissait, mais aussi pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'il faisait bien comprendre qu'il y avait ce double côté. Et finalement, voilà quelqu'un qui est né exactement au moment de la découverte de l'Amérique, en 1492. Et bien sûr, c'est la Nouvelle-Espagne qui va faire sa gloire. Il a finalement servi Cortés. Ensuite, il a suivi Pedro de Alvarado, qui est le conquérant du Guatemala. Et en 1544 ou 45, il s'installe à Antigua, la capitale de l'époque. Et là, eh bien, il va rédiger ses mémoires. Il va retourner deux fois en Espagne. Et là, vous savez pourquoi il y retourne ? Tout simplement pour s'opposer véritablement à ce qu'on appelle la junte de Valladolid. Et à Valladolid, en 1550, on avait invité Bartolomé de las Casas afin de supprimer l'idée de l'encomienda, c'est-à-dire les pouvoirs de ces premiers conquérants qui avaient reçu toutes ces communautés, tous ces villages, tous ces terrains incroyables. Et il repart ensuite au Guatemala, il va finir ses jours à Antigua, on pense qu'il meurt à peu près en 1584. Et ce qui est curieux, c'est qu'il est à la fois colonisateur, il est vraiment imbu de sa supériorité, il est chroniqueur extrêmement méticuleux, il a écrit vraiment une aventure qui souvent le dépasse complètement, parce que c'est vrai que ça a été quelque chose d'incroyable, mais en même temps, il donne une sorte d'image, il y a un miroir absolument sans aucun phare, on a l'impression tout à coup de voir une réalité, et puis surtout, il a déjà ce caractère assez curieux que j'essayais d'évoquer par rapport à l'Indien, ce côté intraitable d'un grand propriétaire foncier. Il est déjà la United Fruit Company, il est déjà celui qui sera en face de l'indigène, il est maître des Indiens, et il entend les mener, on le sent très bien dans ses écrits, il veut les mener à la baguette, pour ne pas dire au fouet. Alors ça place déjà toute la situation, parce qu'on peut, aussi être... On peut interpréter ce que seront vraiment les premiers créoles, l'environnement nouveau qui est vraiment la terre de ces hommes de maïs a façonné un homme comme Bernal Díaz del Castillo, et il porte en lui en même temps ce germe un peu étrange, cette mentalité un peu tordue, comme ça, un peu retorse, et de ceux qui désormais deviendront vraiment les maîtres du pays. Et on comprend mieux maintenant cette image de cet Indien sous son fardeau, là, dans ce sentier un peu invisible, qui sort avec ses feuilles de maïs sur le dos, qui n'a que de simples sandales, et pourtant il vit là à la fin du XXe siècle avec une réalité qu'il traîne comme ceci depuis plus de 500 ans.
On reste au Guatemala la semaine prochaine ?
On pourrait peut-être continuer le sujet de façon un peu éclatée, comme ça. Il y a des sujets qui sont mal abordés souvent. Je pense à la fête, mais je pense surtout à l'alcool. On pourrait même parler des confréries qui sont aussi arrivées d'Espagne. Tout ce qui fait un monde indien qui est parallèle.
On se retrouve dimanche prochain.